Alors peut-être d'abord commencer par décoder le gros mot IEN, inspectrice de l'éducation nationale. Donc nous avons à gérer avec Magali, qui est conseillère pédagogique, une circonscription qui est en fait un territoire au sein duquel nous gérons les 47 écoles primaires, élémentaires et maternelles qui sont effectivement présentes sur ce territoire particulier. Vous dire aussi que ce territoire pour la circonscription de Vienne est constitué, enfin, englobe en tout cas dans ces 47 écoles, un peu plus de 6 000 élèves, donc dans le public, 1 200 élèves dans le privé. Et en termes d'enseignants du public, dont nous avons la charge en termes de formation, entre autres, nous avons à peu près tous les ans 320 à 330 enseignants. Donc c'est pour vous situer un petit peu le volume de l'ampleur de la formation lorsque nous la pensons. Alors cette formation, elle nous appartient, enfin il nous appartient de la prévoir pour nos 320 enseignants à hauteur de 18 heures par an, par enseignant. Et au mois de mars 2012, comme chaque année, a démarré la réflexion portant sur le plan de formation qui était à concevoir pour l'année 2012-2013. Pour nous, dans ce moment-là, en équipe de circonscription, alors à l'époque j'avais une circonscription, une équipe complète dans laquelle se trouvait Baptiste qui est là d'ailleurs, hein, puisque nous avons travaillé tous les trois en équipe, le fondement de notre réflexion était le suivant. La formation obligatoire pour tous les enseignants, qui est à hauteur de 12 heures dans la circonscription, doit permettre à chaque enseignant d'être accompagné, d'être aidé dans ses gestes professionnels du quotidien. Les formations s'articulent souvent autour d'apports didactiques que nous avons repérés comme n'étant pas suffisants pour permettre aux enseignants de trouver un certain confort dans l'exercice de leur métier. En tout cas, pas sur notre secteur. Ça ne suffit pas. Nous avons donc procédé à une analyse croisée de plusieurs données pour essayer de déduire quels étaient les besoins de nos enseignants et puis de tenter de les intégrer dans un acte de formation. Alors nous sommes partis d'un certain nombre de constats qui nous questionnaient particulièrement. Ça fait pour moi la quatrième année que je suis sur la circonscription, Magali beaucoup plus, voilà, et puis Baptiste était avec nous depuis la deuxième année. Donc nous avions un vécu commun sur cette circonscription qui, vous le verrez tout à l'heure, représente un certain nombre de particularités. Alors premier constat, c'est que nous étions de plus en plus souvent sollicités, et nous le sommes encore, de plus en plus souvent sollicités pour traiter des difficultés que des enseignants rencontrent dans leur relation avec les familles dont les enfants sont pour nous des élèves en difficulté. Ça, c'est le premier constat qu'on a fait. Quand je dis que nous étions de plus en plus souvent sollicités, c'est 4 à 5 fois par jour, oui, par des écoles différentes qui nous appellent, qui lancent des SOS en nous disant « là, on ne sait plus faire ». Ces appels, deuxième constat, ils émanent de toutes les écoles. Celles des quartiers CUX, qui sont récurrentes, effectivement, elles sont fréquentes, elles sont récurrentes, souvent adressées à l'équipe à des moments qui sont devenus intenables au sein des équipes enseignantes. Et puis, il y a ces appels qui viennent des autres écoles, celles qui ne sont pas dans les quartiers CUX, qui sont des demandes qui sont moins fréquentes, mais qui pour autant nous demandent une attention soutenue, parce que ces équipes, dans ces moments-là, sont souvent dans une situation inédite pour elles, et pour laquelle elles ne disposent d'aucun schéma d'action et d'aucune réponse connue. Du coup, leurs demandes sont aussi pressantes que celles qui sont dans des situations lourdes que peuvent vivre certaines de nos écoles en CUX. Troisième constat que nous intégrons, les jeunes enseignants sont particulièrement désemparés et désarmés devant les problématiques qui mettent en jeu la relation école-famille. Et bien nombreuses sont les difficultés qui naissent de cette relation école-famille. Quatrième constat, il y a des partenariats dont Magali vous parlera tout à l'heure qui sont installés au sein des quartiers, alors avec les centres sociaux, avec les assistantes sociales, avec le DRE également, mais ces partenariats ne sont pas toujours activés au bon moment par manque de connaissance des acteurs. Et puis, cinquième constat, celui qui est le plus douloureux pour une équipe de circonscription, on entend des discours d'enseignants, nous lisons des commentaires écrits sur les cahiers de liaison, donc qui s'adressent aux familles, sur les livrets scolaires. Ces commentaires, ces discours indiquent que certains professionnels s'attribuent une place erronée dans le partenariat nécessaire entre enseignants et familles au bénéfice des élèves. Alors, quelques exemples, des conseils sur la vie à la maison, des discours qui évoquent la démission des familles, entre autres, et puis des modalités de communication inopportunes que nous repérons, des écrits adressés aux familles et écrits au stylo rouge, par exemple. Voilà, des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui nous bousculent énormément quant à la lecture que les enseignants font de la nécessité d'une relation saine et bien positionnée avec les familles. Alors tous ces constats-là, nous les croisons à ce moment-là avec un contexte de circonscription qui va nous permettre d'identifier et de formuler des besoins spécifiques au territoire sur lequel nous agissons. Alors déjà, premier constat, premier élément, nous avons une population enseignante très spécifique. Tous les ans, nous accueillons environ une quarantaine d'enseignants débutants. Tout débutants. Ils sont tous très démunis quant à la gestion des élèves en difficulté. Ça, c'est le premier élément. Mais aussi, ils méconnaissent complètement les enjeux d'une relation école-famille bien positionnée. Pour eux, c'est secondaire. Pour eux, c'est quelque chose qui n'entre pas dans leur professionnalité. Pas d'emblée, en tout cas. Deuxième élément de contexte dans cette circonscription, nous avons une rotation des enseignants qui est très importante, qui est due à un territoire très peu attractif dans le département. Un tiers de renouvellement des enseignants certaines années. Et puis, de jeunes enseignants, souvent très dépités lors de cette affectation. Ils sont là, mais ne veulent pas y être. Et pour nous, on a souvent l'impression de repartir d'une page blanche tous les ans et de remettre sur le métier sans arrêt, le travail qu'on avait commencé. Voilà. Donc ça, c'est un élément de contexte qu'il nous faut prendre en compte. Autre élément de contexte, la population enseignante, et vous l'avez deviné à partir des deux premiers éléments, est extrêmement jeune. Plus de la moitié de nos enseignants ont moins de 35 ans. C'est bien la jeunesse, c'est très bien. Mais ça donne un contexte particulier dont nous devons tenir compte. En particulier, ce sont des enseignants qui sont souvent très peu expérimentés dans la relation à des populations qu'ils ne connaissent que très peu, voire pas du tout. Leur modèle, c'est souvent celui de leur propre vie. Je vous rappelle que s'ils sont enseignants, ils ont souvent été de bons élèves. Ils ont aussi comme modèle leur propre modèle en tant que parents. Et puis, le contact avec les familles populaires, il est souvent extrêmement brutal, parce que fait de réalités qui leur sont totalement inconnues. Je vous cite les propos d'une enseignante qui arrivait sur la circonscription cette année et que j'ai été amenée à rencontrer. « Je ne savais pas que des élèves comme ça pouvaient exister. » Vous imaginez la difficulté pour nous, équipe de circonscription, à la fois de respecter ce discours-là pour pouvoir le prendre en compte et pour faire avancer la personne. Voilà. C'est un discours qui est difficile à entendre pour nous qui sommes professionnels mais un discours qu'il nous faut prendre en compte pour le bénéfice des élèves. On ne peut pas l'ignorer, en tout cas. Autre constat plus technique, mais qui faisait réfléchir quand même, la fluidité des parcours des élèves. Alors, en particulier, tout ce qui est de l'ordre du maintien, du redoublement, etc. Cette fluidité est mise à mal, de manière très irrégulière selon les écoles, mais avec une constante. Les parcours sont généralement moins fluides sur notre secteur que sur le département entier. Ce qui montre bien qu'on a effectivement une difficulté des enseignants à se positionner par rapport aux résultats des élèves. Et puis un territoire dont il faut savoir aussi que 50% des enseignants enseignent en quartier CUX, donc massivement concernés par ce type de problématique. Alors une fois qu'on a eu croisé tous ces constats et puis tous ces éléments de contexte, nous avons pu identifier un travail qui porterait sur la relation aux familles comme élément qui pourrait favoriser un parcours fluide des élèves. Et nous en avons fait une priorité au sein de la circonscription. Nous sommes dit qu'agir là-dessus, tout en gardant en parallèle des actions du domaine de la didactique, pouvait être un élément, un apport positif à la fois pour les enseignants, mais aussi et surtout pour les élèves. À ce moment-là, notre réflexion s'est orientée sur la manière qu'il convenait de, enfin sur le chemin qu'il convenait de prendre pour orienter, pour couvrir les besoins que nous avions repérés. Alors nous en avons conclu qu'il fallait apporter des éléments de compréhension des enjeux de cette relation école-famille, mais aussi des pistes d'action à mettre en œuvre au sein des classes. Et puis qu'il nous fallait aussi apporter un espace de réflexion au sein des équipes, du temps, pour construire ensemble à la fois des schémas d'action et des incontournables en termes d'attitude professionnelle. Voilà, je vais laisser la parole à Magali pour la suite, qui va vous parler à la fois des partenariats et puis du montage de la formation, puisque là, pour le coup, on est complètement dans son métier de conseillère pédagogique.
Peut-être pour compléter aussi les propos de Dominique. Alors c'est vrai que moi, ça fait 10 ans hein, que je suis sur la circonscription. Je pensais que ça ne pouvait pas exister. Je l'entends très régulièrement lors des entretiens de formation avec les néo-titulaires. C'est une des phrases que j'avais notées d'ailleurs dans le questionnaire, parce que c'est je crois, la première fois où je l'ai entendue et où j'ai fait expliciter à la personne qui était en face de moi ce qu'elle entendait par le « ça », m'a pris beaucoup de temps, mais m'a beaucoup bouleversée, professionnellement et personnellement aussi. Et je me suis dit, voilà, nous avons affaire à des jeunes qui prennent le métier, mais la vie aussi en pleine figure à ce moment-là. Et voilà, ben comment faire avec ? C'est vrai que c'est toute cette réflexion hein, aussi qui sous-tend notre démarche aujourd'hui. Ce que je souhaiterais dire aussi, parce que en complément, c'est que il y a beaucoup de ressentis de notre part, mais pas que. Certes, il y a eu du ressenti, et quand je dis de notre part, je dirais de l'ensemble de l'équipe de circonscription, et je mettrais dedans la secrétaire aussi de la circonscription, qui, elle, reçoit les coups de fil, reçoit des mails en permanence, nous les transfère, nous passe le relais, et elle aussi, même de son poste de secrétaire, elle est capable de nous dire mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, on s'est dit, bah oui, nous avons beaucoup de ressentis par rapport à ça, mais est-ce que nous pourrions quantifier un petit peu ce qu'il en est et être sur des faits ? Ce que nous demandons tout le temps à nos collègues, hein, d'être sur des faits et pas seulement sur du ressenti. Mmh. Donc c'est ce que nous avons effectué aussi. Et nous avons listé un certain nombre de choses qui sont des indicateurs pour nous, mais vraiment des indicateurs concrets, qui nous montrent que, eh bien, cette problématique-là, elle était en augmentation de partout dans toutes les écoles, et que ça devenait effectivement, on ne pouvait pas faire comme si elle n'existait pas, et on ne pouvait pas continuer à passer à côté. Alors même si au fur et à mesure des années nous avons apporté des réponses, mais des réponses qui étaient, j'allais dire, au coup par coup, Hein, des réponses, soit en termes d'accompagnement d'une équipe d'école. Ça, nous le faisons régulièrement, donc une école qui nous sollicite. Et du coup, nous leur offrons des heures de formation que pour elles, sur cette thématique-là. Hein, nous l'avons fait depuis 3 ans. Alors, très régulièrement.
Généralement, on le fait dans des situations qui sont devenues tellement critiques. Alors quand je vous dis tellement critique, ce sont des situations dans lesquelles, par exemple, en début d'année, nous n'avons aucun enseignant volontaire pour une école. C'est-à-dire qu'on a personne sur les postes, très clairement. Personne sur les postes, ça veut dire nomination de dernier instant. Donc forcément de très jeunes enseignants. Et puis ce sont des écoles qui, au fil de l'année, lorsqu'il y a un enseignant absent, qui généralement est absent parce qu'il a craqué, on n'arrive plus à remplacer. C'est-à-dire que chaque fois qu'on envoie un remplaçant, il tient le coup une demi-journée, et au bout de la demi-journée, il appelle au secours la secrétaire en lui disant « plus jamais ça ». Et vous voyez dans quelle impasse on peut arriver à se trouver. Alors c'est vrai qu'on a jusqu'à présent conduit des actions au coup par coup, comme dit Magali, et que l'idée maintenant, elle est d'agir autrement que le coup par coup, d'agir peut-être non seulement en prévention, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que voilà, notre envie à nous, elle est d'armer les enseignants pour comprendre ce qui leur arrive, pour comprendre ce qui se passe autour d'eux, et pour comprendre qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans, et qu'ils doivent construire des choses. Hein. Donc on va les accompagner, mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on agit beaucoup, et on a certaines écoles sur lesquelles, effectivement, de manière récurrente, on agit. Cette année, par exemple, nous avons une école sur laquelle on agit en nombre d'heures, on évitera de compter, parce que sinon l'éducation nationale va s'arracher les cheveux, hein. Mais en nombre d'heures, on ne comptera plus, mais c'est une école dans laquelle tous les enseignants qui étaient présents depuis quelques années ont obtenu leur mutation. Nous nous retrouvons avec une équipe totalement renouvelée dans un quartier complexe, plus de cadres lisibles pour les élèves, plus de cadres lisibles pour les familles, tout explose. Tout explose, je dois en être sur 5 classes, au 15e remplaçant que j'envoie.
C'est une école où, sur la période précédente, en 6 semaines, l'équipe de circonscription y est allée 7 fois. Voilà, donc 7 fois en 6 semaines.
Quand on dit équipe de circonscription, ce sont les deux conseillers pédagogiques, c'est l'IEN qui y est en permanence, et c'est aussi le RAZ qu'on envoie, les maîtres eux sont envoyés en renfort, comment vous dire, je les fais stationner dans ces écoles-là carrément. C'est-à-dire que j'ai carrément un maître de plus que ce qu'il faudrait. Mais à un moment, il faut parer aux urgences.
Juste pour revenir sur les actions au coup par coup, c'est-à-dire que effectivement nous avons agi, mais nous n'avons pas agi seuls. Hein. Nous avons agi avec les partenaires donc des différents quartiers, comme le disait Dominique tout à l'heure, que ce soit bien évidemment les centres sociaux, mais aussi les éducateurs de prévention. Nous avons une association qui s'appelle Prév en IR sur notre secteur, et puis les assistantes sociales du Conseil général. Donc que ce soit plus d'autres acteurs aussi, mais ça serait trop long de tous les citer. Alors, quand je dis au coup par coup, c'est à la fois sur des actions ponctuelles, mais aussi dans des commissions de réflexion de longue durée, hein, puisque certaines existent depuis déjà 5-6 ans. Donc, avec un travail de réflexion entre partenaires, les écoles, bien sûr, présentes, avec des comités de pilotage, des comités techniques, etc., qui mettent en œuvre un certain nombre de choses, hein, que ce soit des actions passerelles, que ce soit des actions de préparation à la scolarité, que ce soit des actions avec des réunions thématiques en lien premier, second degré. Donc il y a énormément de choses déjà qui existent, certaines qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent moins bien, avec une régulation voilà, qui se fait de quartier en quartier. Mais malgré ces réponses au coup par coup, malgré le fait effectivement que nous essayons dans la mesure du possible de répondre au mieux aux sollicitations des enseignants, quand je dis au mieux, c'est aussi dans l'accompagnement des néo-titulaires que nous mettons en place. Je rappelle que la compétence, vous connaissez hein, le listing des 10 compétences de professeurs des écoles. Compétence 9, travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l'école. Donc, c'est une compétence que nous travaillons aussi avec nos jeunes collègues. Malgré tout ça, ce que moi j'entends aussi et je vois du côté de la circonscription, quand nos collègues nous sollicitent, nous appellent, c'est aussi la souffrance des collègues. c'est aussi leur mal-être dans leur quotidien. Ce mal-être qui se traduit effectivement soit parfois par de la colère en direction des familles, soit par du désarroi, soit par de l'incompréhension, bon, par des tas d'émotions aussi diverses et variées, mais un réel mal-être. Et comment le prendre en compte aussi et comment faire avec, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Juste pour terminer aussi là-dessus, avant de passer sur comment nous avions envisagé ces temps de formation, nous avons parlé depuis le début de la semaine aussi de l'effort nécessaire de décentration de l'enseignant pour comprendre. Mais nous avons des enseignants qui ont besoin de faire cet effort de décentration, mais nous avons aussi des enseignants qui prennent tout. Moi, je les appelle nos enseignants éponges, qui prennent tout, qui absorbent, qui entendent, qui écoutent, qui sont là tout le temps, tout le temps. Ils répondent aux parents, un parent les sollicite, ils sont présents. Et du coup, à un moment, l'éponge, elle ne peut plus. Et c'est aussi des enseignants qui craquent au bout du compte. Et nous en avons accompagné un certain nombre ces dernières années. Ça aussi, c'est des indicateurs pour nous concrets dans cet accompagnement.
Alors, le risque des éponges, il est également celui-ci. Ils se mettent en danger là-dessus. Oui. C'est que nous avons des enseignants éponges qui, pour répondre aux demandes des familles, qui, pour ne pas dire non à certaines familles, finissent par dire oui à tout, à tel point qu'ils se font attaquer derrière par les familles, qui lisent dans certaines de leurs actions, dans certains de leurs actes, une discrimination à l'égard d'autres familles. Et du coup, ce sont des enseignants qui se trouvent en difficulté lourde parce qu'accusés de discrimination, alors ça va jusqu'à la violence verbale, ça va jusqu'aux gestes physiques également, de parents en colère, parce qu'ils ne comprennent plus pourquoi on dit oui à tout et qu'à un moment donné, on est obligé de dire non. C'est lu pour eux pour la discrimination. Voilà, ça n'en est pas dans l'intention, mais de fait, ça le devient. D'où cette incompréhension. Donc nos enseignants éponges, non seulement ils se mettent en danger psychologique pour eux-mêmes, mais en plus ils se mettent en danger professionnel parce qu'ils vont à la faute. Ils vont à la faute. Et effectivement, quand les familles disent, comme ça m'est arrivé au mois de janvier dans une réunion avec des familles, mais là, c'est de la discrimination. Pourquoi cet enfant-là a eu droit à ça et pas le mien ? Ils ont raison. Ils ont raison. La famille a raison de dire ça. Elle a raison d'avoir ce ressenti. Ça n'était pas intentionnel. C'est simplement parce que l'enseignant est tellement mal qu'il n'a jamais dit non. Pas à un moment donné. Sauf qu'à un moment où ça devient intenable, on dit non et c'est pas le bon moment. Voilà.
Alors du coup, avec tout ça, nous nous sommes dit, nous allons essayer de construire un module de formation de 12 heures pour l'ensemble des enseignants de notre circonscription, mais module de formation qui, effectivement, comme le disait Dominique, bien sûr, nous souhaitions avoir un apport de chercheurs, de théoriciens par rapport à la compréhension des enjeux, mais pas que. C'est-à-dire que nous voulions aussi que cette formation, elle puisse permettre à nos enseignants de se construire une parole professionnelle, une posture professionnelle, et que cette formation, elle ne soit surtout pas culpabilisante non plus pour nos enseignants. Et en partant de cette hétérogénéité sur notre circonscription, parce que nous avons, comme toute circonscription, une très grande hétérogénéité chez les enseignants comme chez tout le monde. Et donc on s'était dit, nous allons faire venir, nous avons travaillé avec l'IFE, avec Marie-Odile en particulier depuis le mois d'octobre. Nous souhaitions donc depuis l'année dernière construire cette formation en partenariat aussi avec le DRE sur le secteur et puis avec les centres sociaux, les éducs de prévention, etc., etc. On avait imaginé que dans ces 12 heures, il y aurait donc des apports, des temps de réflexion, des temps de construction pour, au bout du compte, que chaque école avec les partenaires puisse mettre noir sur blanc quelques grands principes d'action, quelques grandes intentions, comme un peu une charte de l'école, mais appropriée à chaque école et quartier. D'accord. L'idée, c'était pas de faire un écrit qui soit modélisable pour toutes les écoles de notre secteur, bien au contraire. Mais bien que chacun puisse, là où il en est, pouvoir dire, ben voilà, nous dans notre école, nous souhaiterions ceci, cela.
Alors l'idée de l'écrit peut paraître très formelle, excuse-moi. L'idée d'un écrit peut paraître très formelle et on se dit, allez, c'est encore bien l'éducation nationale et son envie d'écrire tout, de projet, etc. L'écrit chez nous, je vous rappelle que nos enseignants partent. Et il faut qu'il y ait une mémoire de ce qui s'est fait, une mémoire de ce qui s'est dit et une mémoire des modalités d'action que l'on choisit à un moment donné pour que celui qui arrive ait cette trace sur laquelle s'appuyer. Hein. L'écrit, il n'est pas juste là pour faire plaisir à quelque institution que ce soit. Il est vraiment pour servir aux enseignants et pour servir de trace mémoire de cette réflexion-là.
De trace mémoire qui serait laissée, hein, qui serait incluse dans le projet, dans les futurs projets d'école aussi. Hein. Donc vraiment adapté à chaque école. C'était vraiment notre souhait. Donc nous avions prévu un temps de voilà un temps d'apport de Monsieur Perrier au départ en termes de conférence, puis après des temps de réflexion et de travaux de groupe en lien avec ATD et avec l'IFE bien évidemment, puis après un travail un peu plus spécifique autour de l'école maternelle ou autour de l'ASH aussi. Ça, c'est ce que nous avions bien en tête jusqu'à hier matin, en gros, puisque pour des raisons diverses et variées, la formation telle que nous l'avions conçue, bien ne pourra pas avoir lieu, en tout cas dans
pas sous cette forme-là. Mais toujours ça n'empêche qu'on y tient vraiment. Donc, on va y aller quand même.
Toujours est-il que nous y tenons, que le 13 mars, nous serons face à tous les enseignants ou une partie des enseignants et qu'il nous reste quelques jours encore pour travailler, pour réinventer et que nous comptons donc justement sur chacun d'entre vous et sur l'intelligence collective pour nous aider à finir de construire ce module qui était tout prêt jusqu'à hier matin.
Voilà, alors ce qui est remis en cause, c'est pas la totalité, heureusement pour nous, hein, on a encore quelques bases solides. Quand Magali vous parlait de l'intervention de l'ASH pour nous, il s'agit, alors pour le coup c'est même Baptiste qu'on a sollicité, puisque nous avions la chance de l'avoir dans l'équipe l'année dernière, vous pensez bien qu'on ne l'a pas lâché comme ça. Nous avons demandé effectivement que soient complétés les apports sur lesquels nous comptions, qui étaient apports de sociologues, par des pistes pratiques pour les enseignants, et en particulier nous avions demandé à Baptiste, nous avons demandé, et il va le faire, de traiter de la prise en charge des élèves en difficulté comportementale au sein des classes, puisque c'est celle qui déstabilise le plus nos enseignants, et en particulier dans sa dimension de relation aux familles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit aux familles, comment on le dit, comment on travaille avec la famille. Hein, l'idée n'est pas d'aller montrer du doigt à la famille en disant « mais ça ne va pas du tout, voyez bien comment vous l'élevez ». Alors là, si on en arrive là, on a tout perdu. Donc ça, c'est un des éléments qui va rester stable. L'autre élément, c'est effectivement ce que vous disiez, Magali, sur l'accueil des jeunes élèves en maternelle. Hein, c'est Magali qui va le traiter. Et moi, je traiterai de la fluidité des parcours en élémentaire, en particulier de l'utilité ou non du redoublement, de quelles décisions on prend, comment. Avec le surtout ou non, oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, particulièrement lorsque j'inspecte mes enseignants et qu'ils me font constater qu'il y a un certain nombre d'élèves redoublants et que de même, ils me disent, mais là, ça ne sert à rien, de toute façon. Bon, alors dans ce cas-là, on réfléchira en amont pour éviter que ça ne serve à rien. Voilà, donc ces éléments-là vont rester. La réflexion avec les équipes enseignantes vont rester. Ce qui nous reste à réinventer, c'est ce qu'on avait mis au début. C'est ce qui nous panique un tout petit peu tout de suite, mais on va y arriver.
Oui, parce que c'était effectivement l'apport du chercheur, donc que nous n'aurons plus. Alors, c'est vrai que dans les formations que nous menons, nous avons l'habitude de lire, d'écouter, de regarder des conférences, puis de retraduire avec nos propres mots un certain nombre de choses. Mais dans ce cas-là, Et sur cette thématique-là, c'est vrai que nous souhaitions un apport extérieur à l'éducation nationale pour plusieurs raisons, et entre autres parce que nos collègues enseignants ont souvent aussi tendance à dire « Ah mais oui, c'est... Excuse-moi Dominique, hein, mais... Ah ben oui, mais c'est la hiérarchie qui dit que... Donc, il faut que... » Et justement, que justement, là, nous étions sur une autre démarche. Et voilà, parce que sinon, effectivement, lire et retraduire avec nos propres mots, c'est ce que nous faisons dans toutes les formations.
C'était clairement la démarche qu'on demande à nos enseignants, celle de se décentrer, d'avoir un apport différent, un regard différent pour les aider à